Cube Radio.
Le Super Bowl. Avant le Super Bowl, les 49ers et les Ravens nous donnent un avant-goût de ce qu'on regardera peut-être le 11 février. Corps arrière partant blessé? Pas de problème. Il est temps de donner un peu d'amour aux backup QB qui vont amener leur équipe en série. Jouer ou ne pas jouer? Telle est la question pour Aaron Rodgers d'ici la fin de la saison. La zone payante tente de répondre à la question pour lui. Tom Brady s'ennuie de l'attention médiatique. Une autre sortie tonitruante de l'ancien carrière fait réagir. Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar, de savantes analyses et beaucoup d'émotions, c'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de la zone payante. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Nicolas Gagné. C'est un plaisir de vous retrouver pour cet épisode de la zone payante, le 20e épisode de cette 5e saison.
Ah ouh.
Et je suis en compagnie de l'expert du Journal de Montréal et de Québec, Stéphane Cadaret. Salut Steph.
Salut Jean-Nic, salut tout le monde. Comment ça va Jean-Nic?
Merci, très bien toi-même. Je sais que...
Ça roule.
Ouais, t'as passé un beau dimanche, c'est samedi maintenant, comme on est choyé, des matchs le samedi, des matchs le jeudi, des matchs le dimanche, des matchs le lundi. On va essayer de tout présenter ça pour vous cette semaine. On va avoir une émission chargée, alors allons-y tout de suite si tu veux bien, Steph, avec les actus de la semaine. J'aimerais ça t'amener sur un sujet cette semaine, Steph, les backup QB, les quarts arrière suppléants. Il y en a beaucoup, ça fait une couple de semaines là, qu'on parle un peu des blessures entourant les corps arrière. Ouais. Mais moi, ce que j'ai envie de te parler, c'est de la bonne performance des corps arrière suppléants. Est-ce que c'est l'année des backup QB dans la NFL?
Absolument, j'en ai. Honnêtement, là, moi, je vois pas une autre année où il y a eu autant de bonnes performances des réservistes. Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps un ou deux qui sort puis qu'on se dit, ça va-tu vraiment durer? Puis finalement, bon, soit ça se passe bien ou soit ça régresse. Mais cette année, c'est qu'il y en a plein un peu partout. Juste pour répondre, il y a peut-être des gens qui se posent la question là avant là, de passer directement à ce que tu abordais. Est-ce que c'est un record cette année? Là? Est-ce qu'on a déjà vu ça? C'est-tu tout de même ou c'est une illusion cette année? C'est pas un record, c'est beaucoup. Je te dirais que là, écoute, on est à la fin de la semaine 15, début de la semaine 16. Il y a 18 équipes qui ont starté des corps arrière qui n'étaient pas leur partant à la semaine 1 là, de la saison. C'est quand même pas mal. Puis, on en est à 58 corps arrière qui ont été partants cette année, là, à gauche, à droite, dans les 32 clubs de la NFL. Là, la fameuse question, est-ce que c'est déjà arrivé? C'est un record? Ben non, l'année passée, pas plus tard que l'an passé, on oublie vite, hein, c'est ça qui est fou. 69 corps arrière différents l'an passé. Fait que, tu sais, c'est pas une année record, mais comme tu dis, puis moi, c'est ton point là, que je trouve le plus intéressant là-dedans, c'est une année où vraiment les corps arrière réservistes performent bien. Tu sais, juste te donner quelques exemples. Gardner Minshew fiche de 6 et 4, puis ça va particulièrement bien dernièrement avec les Colts. Jake Browning, tu sais, quand Joe Burrow est tombé, là, je me demande même si on l'a pas dit dans le show, mais la saison des Bengals, pour moi...
On a enterré les Bengals à ce moment-là.
Écoute, c'était terminé. Là. Tu sais, vraiment, il y avait aucune chance. Jake Browning est 3 et 1 au moment où on se parle. Joe Flacco, le 20 novembre, il était sur son divan, il mangeait des chips. Puis, tu sais, il était en train de se dire, ben, ma carrière, ça a quand même bien été, j'ai un Super Bowl, c'est terminé, mais je termine ça en paix. Tout à coup, les Browns l'appellent, il redevient le partant de façon inattendue. 2 victoires, 1 défaite. Là. Puis les 2 dernières games, il est au-dessus de 300 verges. C'est quand même pas banal. Tu sais, les Browns, justement, ils en sont à 4 corps arrière, puis 3 des 4 ont une fiche gagnante. T'sais, écoute, à quel point leur saison aurait pu aller dans le trou si c'était pas des miracles à cette position-là. Je comprends que les Browns, c'est une équipe avant tout qui vit et qui meurt par sa défense. Là. Mais écoute, ça te prend un corps arrière fonctionnel pour gagner quelques matchs. Parle-en aux Jets qui sont pas capables.
Ah oui, ils ont eu besoin de Joe Flacco encore en fin de semaine, les Browns.
Ben oui, tout à fait. Un autre 300 verges, comme je disais. Puis, tu sais, c'est pas les seuls. Garde les Giants, là, oui, leur saison est à peu près finie. Mais Tommy DeVito leur a donné un certain espoir pendant quelques semaines. Il a gagné 3 matchs en ligne. Tu sais, même Josh Dobbs avec les Vikings, là, il est de retour au banc depuis la semaine passée. Mais quand même, écoute, il a été leur gagner 3 gros matchs, Josh Dobbs. Si c'était pas de lui, est-ce qu'on pourrait dire qu'ils sont encore en vie pour les séries? Je pense pas. Fait qu'on vient de faire un bel inventaire, là. Tu sais, c'est quand même une brochette.
On peut faire un clin d'œil aussi à Drew Lock, là, qui est allé gagner un match très important lundi, là.
Eh oui, tu fais bien de le mentionner. Puis Drew Lock, c'est un autre, ça, qu'on avait fait un peu une croix dessus. Il a même pas été capable.
T'as vu son entrevue d'après-match? C'était vraiment, il était vraiment touchant, le gars, là. Tu sais, ça paraît qu'il était, il était émotif par rapport à la performance qu'il avait donnée. Puis il a dit une phrase, à un moment donné, il a dit, tu sais, t'es sur le banc pendant tellement de matchs à regarder tes coéquipiers jouer, puis t'es content pour eux, mais tu poses toujours la question, ouais, est-ce que je peux encore faire ça? Est-ce que je suis encore capable d'être un carrière dans la NFL puis de gagner un match? Puis il a eu sa réponse lundi.
Ben écoute, Drew Lock, là, tu sais, je veux dire, c'était quoi les chances? Qui mettait les Seahawks gagnants de ce match-là? Pas grand monde. Puis, quand ils ont nommé Geno Smith l'an passé comme partant au début de l'année, c'est comme si on se disait, ben, Drew Lock, c'est signe que sa carrière, tu sais, ça vaut rien. Puis peut-être qu'il sera jamais partant ailleurs. Peut-être qu'il n'y aura pas un autre shot dans la NFL. Mais écoute, il aura vécu son petit moment de gloire un lundi soir. Tu sais, les Seahawks sont encore en vie. On les comptait à peu près pour morts la semaine passée. Chapeau, vraiment, là, les backup QB, c'est votre année, messieurs.
Wouhou! OK, hey! Un qui sait pas son année, puis je regardais un peu, tu sais. Non, mais je vais t'amener sur un deuxième sujet, puis tu sais où je m'en vais.
Ouais.
Brandon Staley.
Ben
tu sais que c'est pas un de mes favoris, là. Ça fait un bout de temps que je plaide pour qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre. Mais là, tu sais, quand on part, on est toujours épargné, là. Je regardais un peu, tu sais, ses performances. C'est sûr là, qu'il a pas réussi à aller tirer le meilleur de Justin Herbert, mais c'est quand même ça va être le troisième entraîneur de Justin Herbert, là. On commence à se demander si c'est de la faute des coachs ou c'est de la faute du carrière.
Ben, je pense pas que c'est de la faute du carrière. Il a quand même fait beaucoup, mais c'est sûr que Herbert, il va falloir qu'il passe un niveau de plus. Je t'en parlais à un moment donné, beaucoup plus tôt cette année, là, mais il y a beaucoup de matchs très serrés dans sa carrière qu'il est pas capable d'aller chercher. Ça, c'est une chose, mais si tu demandes aujourd'hui, tu fais un sondage dans NFL, voulez-vous le poste d'entraîneur-chef des Chargers? Moi, je suis convaincu qu'à cause de Justin Herbert, ça reste une situation hyper attractive. Écoute, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que ça reste que le monde veut aller coacher là. Puis, il y a quelque chose, par contre, là, qui a vraiment coulé Brandon Staley beaucoup plus que Justin Herbert. Ils l'ont amené comme supposément le génie défensif, le gars en contrôle. Il était pas en contrôle des situations. Beaucoup d'erreurs de gestion.
Le génie défensif de Sean McVay.
Ben ouais, mais c'est ça. Là. Il y avait eu une bonne saison comme coordonnateur. Puis, écoute, il y avait des joueurs là, carrément...
Garoché entraîneur-chef. Là.
Ouais, puis il y avait des joueurs héroïques en place. Là. On parlait des Aaron Donald puis d'autres. T'arrivais là, c'était clé en main.
C'est il se ramasse coacher, avec les. C'est comme coacher Peyton Manning là, dans ses bonnes années.
Ben, tu sais, il y a eu.
Quand t'es coordonnateur à l'offense.
Oui, mais il y en a eu beaucoup des coordonnateurs à l'attaque qui se sont fait un nom avec Peyton Manning. Là. Écoute, Adam Gase, c'est un exemple. Puis ça a été compliqué autant quand il a été après à Miami qu'à New York Jets. Puis là, tu vois, pour en revenir à la performance défensive de Staley, les Chargers, ils ont jamais été capables de faire mieux que 20e pour les verges accordées, puis 27e pour les points accordés. Tu sais, ça, moi, ça me parle beaucoup. Je me dis que le gars est embauché pour quelque chose qu'il a pas été capable de gérer. En frais de gestionnaire de match, ça a été terrible aussi. Là. Tu sais, ça, tu peux pas mettre la faute sur Herbert. Des situations de quatrième essai très mal gérées, trop souvent agressifs. Des gestions de l'horloge bâclées, là, vraiment, ça a pas été trois belles années. Là. Il finit avec une fiche de 24-24. Pff, c'est très mitigé. Moi, je pense que le prochain là, peut clairement faire mieux.
Est-ce que ce sera Bill Belichick le prochain? On entend les rumeurs. Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a d'autres entraîneurs là, qui risquent de finir leur Black Monday au bureau de chômage. Là. Et on peut penser à Ron Rivera. Est-ce que tu crois ça pour Robert Saleh qui est en train de perdre son vestiaire avec les Jets?
Robert Saleh, il semble encore, je lisais aujourd'hui un autre article qui disait que Aaron Rodgers pousse très, très fort pour lui. Puis je pense qu'on sait qu'Aaron Rodgers est rendu pas mal le boss là-bas. Ça aide. Un chum, c'est un chum. Mais il y a d'autres places. Tu mentionnais Ron Rivera. C'est clair que lui est en danger. Il faut pas oublier qu'il y a déjà trois coachs dehors. Là. Oui, il y a Staley, mais il y avait déjà Josh McDaniels avec les Raiders. Puis, voyons, les Panthers, qui a une ouverture aussi.
Frank Reich,
c'est ça. Puis, tu vas avoir là, quand même des équipes. Tu sais, je commence même à me demander si Mike Tomlin n'est pas en danger. Moi, quand je vois ces receveurs bloqués comme ils bloquent en ce moment. Là,
ouais, ça, c'est sûr que George Pickens n'a pas donné un très bel exemple.
Ouais, puis la semaine d'avant, c'était Deontay Johnson, n'oublie pas. Là. Ça fait une couple de fois qu'on voit des efforts très lamentables du côté des Steelers, très, très, très discutables. Des gars qui se pointent du doigt, qui se remettent en question. On flush le coordonnateur offensif. T'sais, on voit qu'on cherche beaucoup de coupables à bas. Il y a du drama, là, comme j'ai rarement vu à Pittsburgh. C'est une organisation habituellement très tranquille. On vogue dans la tranquillité. Je te dis pas que c'est la fin du monde.
Non, là, ils ont toujours eu des receveurs un peu flamboyants, là.
Ben, Antonio Brown Wallace, mais il a été, ouais, mais tu regardes Antonio Brown, compare les premières années de sa carrière, à quel point il était bien géré à Pittsburgh. C'est vrai. Jusqu'à la fin, là. Puis là, ça a explosé complètement avec les Raiders, avec les Bucks, avec les Pats. Tu sais, il était plus gérable. Mais je me pose la question. Je te dis pas que c'est sûr que les Steelers prennent une autre direction, mais je commence à me poser des questions. Puis après ça, écoute, tu regardes à gauche, à droite, est-ce qu'un gars comme Matt Eberflus est safe avec les Bears? Tu sais, si on décide d'y aller complètement dans une autre direction, là, ben, ouais. Force-toi pas trop. Là. Si jamais il est là l'année prochaine, commence à te concentrer là-dessus.
Je fais l'effort d'essayer de le prononcer son nom.
Tu sais, Arthur Smith avec les Falcons. Ça commence à mal aller, les autres, là.
Hey, le nombre de quatrième essai, le troisième essai est long qu'il a couru, un moment donné. Il veut pas gagner, là. Mais c'est ce qui est arrivé.
Mais au moins, c'est un autre.
Cet objectif-là. Perd 9-7 contre les Panthers. On fait une pause, Steph. Et on va se reparler de tout ça après la pause parce qu'on passe tous les matchs en revue pour la semaine 16 de la NFL. Bougez pas. On est de retour sur la zone payante en compagnie de Stéphane Cadorette et Jean-Nicolas Gagné, moi-même. Et on va passer à travers la semaine 16 de la NFL. Déjà, là, on peut parler d'équipes éliminées en plus grande quantité. On n'avait pas beaucoup d'équipes éliminées jusqu'à la semaine passée. Là, les Jets sont éliminés officiellement, les Pats, d'autres aussi, Arizona. J'en oublie peut-être, mais on commence à avoir des scénarios de séries éliminatoires qui s'éclaircissent. Et on va commencer avec deux équipes qui sont dans le mix, les Saints et les Rams. Surprenamment, les Rams, mais ils sont plus que là, sont septièmes, si ma mémoire est bonne.
Oh oui, ils sont là, puis tu sais, ils jouent bien, on en parle à chaque semaine. T'sais, c'est deux équipes imprévisibles, mais je te dirais que les Saints sont encore plus imprévisibles pour moi que les Rams. Je sais jamais quel genre d'effort ils sortent d'une semaine à l'autre.
Mais ils donnent pas de toucher. Les Saints, en tout cas, on peut leur donner ça, là.
Ouais. Par contre, en défense, écoute,
ils sont plus prévisibles qu'à l'attaque.
Ouais, mais ils ont de la misère contre les bonnes équipes. Là, est-ce qu'on peut qualifier les Rams tout de suite cette année de bonne équipe? Je le sais pas encore. Mais ce que je sais, c'est que les Saints, ils ont joué 6 fois contre des équipes qui étaient, qui sont à plus de 500, à 500 ou plus. Leur fiche, c'est 1-5 dans ces matchs-là. Tu sais, ça, j'aime jamais ça. Tu sais, tu parles souvent de tes Dolphins à propos de ça, qui sont 0-3 contre des clubs aux fiches gagnantes.
0-4 après cette semaine, mais continue.
Déjà. Déjà, Jean-Nic. Ressaisis-toi. On en parlera en temps et lieu. D'accord. On en parlera en temps et lieu. Tu feras ton petit caca nerveux tantôt. Là. D'accord. Mais non, les Rams, moi, je leur fais confiance cette semaine. Écoute, c'est une moyenne de 150 verges au sol depuis la semaine 10. C'est un des clubs qui court le mieux dans la ligue. Kyren Williams, c'est une belle révélation. Les Saints feront pas le poids dans ce match-là.
Ouais, moi aussi, j'y vais avec les Rams. Les Rams sont favoris par 4 points. Les Steelers à domicile contre les Bengals et le Jack... En fait, ça va être un duel de corps arrière backup. Même, on ne sait pas à quel point les Steelers vont aller loin dans leur depth chart parce que c'est pas impossible qu'en ce temps de Noël, Rudolph soit le corps arrière des Steelers. C'est... Je vais y aller avec les Bengals de mon côté qui sont favoris par 2.5 à l'étranger.
C'est plus que possible. Hein? Ce qu'ils ont dit les Steelers, c'est Mason Rudolph va être le partant, sauf si par un beau hasard de la médecine, Kenny Pickett se rétablit à temps. Là. Mais chose certaine, Trubisky, c'est terminé. Le Rudolph, il a pas amorcé un match depuis novembre 2021. T'sais, j'y fais pas beaucoup confiance. Mais par contre, le match des Bengals la semaine passée a laissé bien des traces. Là. T'sais, DJ Reader, le plaqueur qui s'est blessé, là, un club comme les Steelers a plus le loisir, je trouve, de courir d'en face des Bengals. Mais surtout, ils ont perdu Ja'Marr Chase. Ja'Marr Chase qui jouera pas. Ça commence à être une mission difficile, je trouve, pour Jake Browning. Là. T'as pas Ja'Marr Chase. Il y a une couple de blessés. Moi, je prends le guess. Chaque fois qu'on dit que les Steelers sont morts, ah, ils sortent un lapin de leur chapeau. Pourquoi pas cette semaine? T'es. Steelers.
Ils ont des Steelers de ton côté. OK, rapidement, les Bills contre les Chargers. Les Bills sont favoris par 13.5. Moi, je vais prendre les Bills, évidemment.
Ouais, je prends les Bills, puis ça devrait aller aussi pour le spread. J'aime ce que j'ai vu des Bills la semaine passée, là, t'sais, de savoir qu'une équipe peut courir beaucoup. Dans leur cas, là, c'était pas évident. Les 266 verges au sol qui ont gagné, c'était du jamais vu dans l'ère Sean McDermott. Fait que ça, c'est bien.
Mais les Cowboys, ils pensaient quoi, là? Moi, j'ai pas compris, là. Ils faisaient un temps affreux. Ouais. Ils ont commencé à courir tôt dans le match. Ils se sont jamais ajustés.
Mais il y a des fois que t'as beau...
Je pose la question, à quoi ils pensaient, là?
Tu sais, les Cowboys, ça fait une couple d'années qu'ils ont un problème de personnel au milieu de la ligne défensive. Tu sais, ils ont repêché Mazi Smith en première ronde. Jusqu'à maintenant, ben c'est mitigé. Tu sais, je veux dire, c'est un jeune, il est pas mauvais, mais c'est pas non plus une révélation, c'est pas extraordinaire. Fait que t'as beau des fois penser qu'on va te courir d'en face, tu vas te faire courir d'en face pareil. Là. Tu sais, ouais. C'est un peu le
qui
s'est passé. Ouais, exactement. Mais bon. Je pense que les Bills ont un plus bel équilibre.
C'est pas, sont pas reconnus les Bills pour être un rouleau compresseur non,
non.
plus. Là,
c'est non, mais plus moi je trouve que ben, oui, mais il est temps qu'il utilise plus James Cook. Là. Je pense qu'il a fait ses preuves. Quand on lui donne le ballon, généralement il performe bien. C'est un gars qui a des bons moves. Oui, ouais. On le sait que c'est un receveur fiable en dehors du champ arrière. Il peut courir toute l'arbre des tracés imaginables. Mais je pense qu'on doit y donner plus le ballon. Puis là, ça a été la preuve. J'ai bien aimé, moi, que Josh Allen dise après le match, je me sens comme un élève qui a remis un travail d'équipe, qui a à peu près rien fait dedans, puis qui obtient la note A. Là. J'ai trouvé que c'était génial comme quote. Puis ça représente ce qu'il faut peut-être que les Bills fassent un petit peu dans des matchs comme ça. Les Chargers sont très moyens contre le jeu au sol aussi. Là. Continue de la même façon. Les Bills,
les Bills vont gagner. Les Bills qui affrontent les Chargers, les Pats dans les deux prochains matchs. Donc, 10 victoires est à leur portée avant leur match final contre les Dolphins pour déterminer qui gagnera la division.
Ils n'ont pas le droit de perdre ça.
Les Colts sont favoris seulement par 2 points. Voyagent jusqu'à Atlanta contre les Falcons. Les Falcons qui sont en train de nous démontrer qu'ils sont mêlés comme un jeu de cartes, particulièrement là, en attaque.
Ouais, en attaque. Et là, écoute, ils ramènent Taylor Heinicke, c'est confirmé. C'est la troisième fois là qu'ils valsent entre les deux. Tu sais, Heinicke, t'as ramené Ridder, tu ramènes Heinicke. Moi, je dis toujours ça dans ce temps-là. Écoute, là, c'est comme un goaler au hockey. Quand tu penses que t'as deux corps arrière égaux, c'est que t'en as pas vraiment un. Tu peux pas faire autrement que le voir comme ça. L'attaque produit pas, la défense ben joue quand même bien là, j'ai pas grand-chose à dire contre la défense, mais l'attaque ça se cherche, ça a pas de bon sens. Les Colts au contraire, tu sais, c'est une attaque qui marque pas mal de points. Jonathan Taylor, un cas à surveiller, le porteur de ballon là, il pourrait revenir au
aussi,
jeu.
Non?
Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est deux cas à surveiller là au moment où on se parle, c'est dur à dire là, malheureusement.
C'est peut-être pour ça que la cote est pas trop élevée. Là.
C'est ça, ça reste à surveiller. Mais tu sais, la cote est pas trop élevée aussi. Regarde les Falcons. Je pense qu'ils sont rendus à 10 matchs cette année qui ont été décidés par une possession. Fait que tu sais, il faut pas s'étonner que la cote soit pas élevée, mais je vais quand même favoriser les Colts.
OK, moi aussi les Colts, je vais y aller avec eux même s'ils voyagent à Atlanta. Green Bay, une équipe avec des hauts et des bas cette année, seulement favori par 4 points. Imagine, ils s'en vont en Caroline affronter les Panthers. Ils n'ont pas convaincu grand monde, même si Jordan Love a eu 3, 4, un bon stretch de match. Je vais prendre les Packers, mais ben c'est bien parce qu'on sait ce qu'on peut attendre de la Caroline.
Ah, et puis, écoute, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est niaiseux, là, mais... As-tu vu comment il n'y avait pas de monde la semaine passée en Caroline?
Oui, mais là, il faisait dégueulasse. Okay.
Je comprends, sais, là, mais écoute, il y avait combien? Là? Il était à peu près 8000 dans le stade, je pense.
Oui, non, c'est pas beaucoup. De bon là, c'est sûr qu'au troisième essai, là, il n'y avait pas grand, il avait pas besoin d'un hard count. Là.
Non, ça c'est clair. Pas besoin de jouer de façon silencieuse puis rien. Là. Mais non, les Panthers, c'est tout simplement pas intéressant à l'attaque.
Mais je leur donne le bénéfice du doute, mettons, pour cette fois-là à cause de la température, mais j'avoue que ça fait pas des partisans très vaillants.
Non, c'est ça. Fait que écoute, les Packers, là, comme tu as dit, c'est pas convaincant ces temps-ci, mais qu'est-ce qui peut arriver de mieux là, qu'un match contre les Panthers quand ça va pas bien? Moi, j'ai pas le choix de les favoriser, même si je suis pas très convaincu ces temps-ci.
Les Texans? Ils reçoivent les Browns, ouais. Les Texans. Ça va être qui de carrière?
C'est ça, là. Non, pour l'instant,
ils sont favoris quand même par 2.5 dans l'incertitude.
Peut-être que les bonheurs au livre savent des choses qu'on sait pas, Jean-Nic, mais écoute, moi, si c'est Case Keenum, bon, on l'a oublié, lui, dans nos backups, justement, en début d'émission. Ça n'est un homme, ça, qui a quand même... Ouais. Fait ce qu'il y avait à faire la semaine passée, c'était pas extraordinaire là, mais 200.
Mais c'est des matchs importants puis il l'a gagné.
Et ça, tu sais, tu peux pas les perdre. Puis par contre la défense des Browns. Écoute, ça c'est un cas de clause astérisque journal. Est-ce qu'on va s'entendre là-dessus? Est-ce qu'on fait une trêve de paix?
Vas-y.
Si CJ Stroud joue, je prends les Texans. Si CJ Stroud joue pas, je prends les Browns.
Je vais faire la même chose.
Tu prends pas les Browns de toute façon?
Non. Je vais prendre moi aussi. Je pense que CJ Stroud peut faire suffisamment pour remporter le match, mais pas Keenum. Les Vikings, par exemple, qui peut en faire suffisamment pour les Vikings pour battre les Lions en fin de semaine? Les Lions favoris par 3.5.
Ouais, les Lions. Le match est à Minnesota. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'allais dire. Tout ce qui joue contre eux, les Lions, c'est qu'ils jouent au Minnesota. Ils sont pas très bons là, là-bas. Ils ont pas gagné là depuis octobre 2017. Fait que tu sais, les Vikings ont une chance dans ce match-là. C'est pas que c'est perdu d'avance, mais j'ai vraiment pas aimé ce que j'ai vu de Nick Mullins la semaine passée. Là, il y en a qui vont regarder le total de verges, dire qu'il y avait deux passes de toucher, mais il était très dangereux. Il y a eu deux interceptions. Il y en a un autre qui a été annulé. Par un offside ou je me rappelle plus quelle pénalité. Puis il y a beaucoup de lancers, je trouvais qu'ils étaient des aventures. Là, t'sais. Puis là, ben écoute, tu peux pas revenir à Josh Dobbs. Mettre Jaren Hall à ce stade-ci de la saison, qui est un corps arrière recru, je suis pas sûr non plus. Fait que je pense que les Vikings sont un peu coincés avec Nick Mullins. Puis la défense des Vikings, ben, continue de jouer bien, mais il y a quelque chose qui se passe. T'sais, c'est probablement la jeunesse qui explique ça en partie, mais trois des quatre derniers matchs, les Vikings ont donné ce qui est devenu le toucher victorieux dans les deux dernières minutes. Fait que, tu sais, la défense tient, puis à la fin, paf, ça casse. C'est souvent un signe là, d'une défense inexpérimentée. Brian Flores fait ce qu'il peut avec cette gang-là. On s'attendait pas autant cette année. Moi, je leur lève mon chapeau, mais je pense pas que ça va être assez pour battre les Lions. Je le dis à regret. La semaine passée, j'ai fait pareil. Ma tête a parlé, pas mon cœur. Mais écoute, c'est le chapeau qu'il faut que je porte dans les prédictions.
Ben moi, je vais prendre la clause journal. Je pense que si Kirk Cousins joue, les Vikings gagnent.
Hey boy! Donc,
sinon, c'est les Lions qui gagnent.
Tu viens de me faire mal au cœur parce que la clause Kirk Cousins, là, hey boy, que ça se rebat en même saison au Minnesota. On aurait surpris du monde, je pense, cette année.
Je sais.
C'est malheureux.
Je voulais te déchirer un peu le cœur. Maintenant, les Jets, Là, à l'heure où on se parle, Aaron Rodgers devrait être activé. Mais est-ce qu'il va jouer un match? Il reste trois matchs?
Non. Non.
Mais je vais te poser deux questions. La première, c'est est-ce qu'il va jouer un match? La deuxième, est-ce que si tu étais Aaron Rodgers, tu jouerais un match?
Il y a une raison, à mon sens. J'évalue peut-être mal les choses. Gêne-toi pas de me le dire. Si Aaron Rodgers joue dans ces rencontres-là, c'est purement une question d'égo. De dire, j'ai battu le record du monde de guérison pour un tendon d'Achille. Parce que qu'est-ce que tu peux gagner? Les Jets sont éliminés. Peut-être là, de dire, ouais, je vais chercher le respect de mes coéquipiers qui m'ont vu guérir, nanana. Mais ses coéquipiers l'ont vu guérir de toute façon. Ils ont vu comment il a travaillé fort. Il n'y a rien à prouver sur le terrain. C'est dangereux à part de ça. Là, Zach Wilson s'est fait estropier la semaine passée. Puis oui, peu importe c'est qui. Là, t'sais, écoute, peu importe c'est qui, c'est sac par-dessus sac. Zach Wilson a la chienne. Tim Boyle a la chienne. Trevor Siemian a la chienne. Rodgers n'aurait pas la chienne comme ça parce qu'il en a vu d'autres. Mais écoute, qu'est-ce que tu gagnes? Il y a un risque.
La seule chose que je dirais, si j'étais Aaron Rodgers, moi, je pense pas qu'il va jouer de match. Là, je pense que tu sais, ça se dessine qu'il jouera pas de match. Mais si j'étais Aaron Rodgers, je veux dire, c'est un sport professionnel, tu as des sports à l'horaire, ton équipe va jouer, tu es en santé, tu joues. Là, c'est,
non,
je le sais. Non, mais je le sais.
Il n'est pas clearé à 100%. Le problème est là aussi.
Évidemment. Non, non. S'il est clearé à 100%, là.
Il l'est pas.
Si, mais s'il est, mettons, pour la semaine 18, là. Je comprends, là. Tu vas me dire, il n'y a plus rien à gagner. Semaine 18, sont éliminés, c'est fini. Mais, je veux dire, tu peux jouer. T'es payé pour jouer. Toute l'équipe va jouer. Eux autres aussi, là, ils n'ont plus rien à gagner. Pour eux aussi, la saison est finie. Mais ils vont jouer pareil, tu sais. Pourquoi toi, t'as un statut différent? Que tu joues pas.
Je pense pas. Je le vois
bien. Mais
c'est une bonne discussion, mais je le vois pas comme ça personnellement. C'est que pour eux autres, c'est un joueur tellement important pour l'an prochain. Puis la nature de la blessure qui est.
C'est pour ça que je pose la question. Si t'es Aaron Rodgers, pas si t'es Robert Saleh, pas si t'es le propriétaire des Jets. Si t'es Aaron Rodgers, qu'est-ce que tu fais? Si
tu veux jouer.
Mais moi,
tu veux jouer.
Oui, je comprends. Moi, je pense que tu veux jouer.
Mais il y a un risque là-dedans, là, quand même. À l'âge qu'il y a, la nature de la blessure qu'il y a eu, il y a bien des joueurs qui guérissent pas super bien de ça. T'as un risque d'aggraver. Un risque, pourquoi? Là? Qu'est-ce que tu vas chercher avec ce risque-là? À part de dire...
C'est ton travail.
Je suis revenu au jeu.
Oui, mais... Si t'es en santé, tu joues. Quand t'es un athlète, c'est le même tu feels. Tu sais, je pense que lui, il va jouer, mais il va avoir beaucoup de pression pour pas jouer. C'est sûr que ça serait une vision catastrophique de le voir retomber un dernier match qui est plus dans.
Pour la semaine 18, on s'en reparlera. Ce qui est sûr, pour l'instant, pour cette semaine, il disait un peu plus tôt, là, je pense c'est mardi midi, ça devait être à Pat McAfee, il disait « En ce moment, je ne suis pas clairé à 100% par les médecins, donc la question ne se pose pas cette semaine. » Fait qu'il jouera pas. Après, s'il y a le feu vert à 100% des médecins, peut-être qu'on ramènera cette discussion-là sur le tapis, là, mais je continue de penser qu'Aaron Rodgers a rien à prouver à ce stade-ci, à part si lui, il veut se prouver quelque chose à lui-même, puis c'est peut-être pas sain de le faire à ce stade-ci de la saison, là, quand que l'enjeu est même plus minime, l'enjeu est inexistant.
Ah, exact. OK, hey, rapidement, Washington contre les Jets favoris par 3 à domicile.
Commanders, tiens.
OK, je vais avec les Jets. Les Seahawks, eux, favoris par 2.5, s'en vont au Tennessee. Peut-être sans Will Levis. Est-ce qu'on reverra Ryan Tannehill?
Ouais, c'est fort possible. Là, les genres de blessures à cheville, entorse à la cheville, comme Levis a subi. Bon, Trevor Lawrence a joué avec ça, mais ça dépend toujours du degré. C'est ça qu'on sait pas au moment où on se parle. Je suis surpris que les Seahawks soient pas favoris par plus. Je pense qu'ils ont montré des belles choses. Geno Smith devrait être prêt à retourner au jeu. As-tu vu Kenneth Walker lundi soir? Le porteur de ballon, il est vraiment spectaculaire.
Ouais, il a remis ses culottes. Là.
Puis, il est blessé souvent ce gars-là à date, là, mais quand il est en forme, là, wow! C'est un des beaux porteurs de ballon à voir jouer. Moi, j'ai vraiment admiré ça lundi. Puis je vois pas pourquoi les Seahawks échapperaient ce match-là après avoir battu les Eagles. Quoique, on a été des fois, c'est pas la première fois qu'on serait surpris, là. Mais moi, j'ai pas le choix d'y aller avec eux.
Moi aussi, je vais avec les favoris, les Seahawks, pardon. Les Jags, eux, avec qui sera derrière le centre à Tampa Bay? Ouais. De plus en plus, là, on fait des petits appels du pied pour que Baker Mayfield ait la reconnaissance qui lui est due à Tampa Bay. Ça serait un beau statement là, de mettre son équipe en meilleure position encore pour remporter les séries, pour faire une place dans les séries. D'ailleurs, je prends les Buccaneers dans ce match-là, oh, même si les Jags sont favoris par 2.5.
Ouais, Baker Mayfield qui joue très bien, faut le dire là. Écoute, moi j'ai été surpris l'autre jour, tu sais, je me suis mis à taper ses stats parce que je voyais qu'il y avait, je pense qu'il y avait 4 passes de toucher contre les Packers la semaine passée. Je me dis tranquillement, il me semble qu'il connaît une bonne saison. Puis là, je vais avoir 24 touchés, 8 picks.
Non, c'est pas pire quand même.
Écoute,
c'est plus que pas pire.
C'est plus que pas pire là. Baker Mayfield joue très bien. La défense des Jaguars qui est très ordinaire, fait que ça se peut que ça continue. Là où les Jaguars ont une chance, c'est que dans les dernières semaines, ils ont affronté beaucoup de grosses défensives sales, tu sais, les Ravens, les Browns. Ça a pas été évident, puis je t'en parlais, ça fait une couple de fois que je te dis, quand Trevor Lawrence et les Jaguars affrontent des défensives top 5, il se passe rien. Sinon, c'est là qu'il est à son meilleur, puis les Bucs, mais sont 31e contre la passe. Fait que cette semaine, je revois les Jags sur le chemin de la victoire.
OK, on s'en va. Les Bears contre les Cards, là, en 2 secondes. 4.5 favoris, les Bears.
Ouais, les Bears, tout ce qui compte à leur sujet là, pour la fin de l'année, c'est est-ce que Justin Fields peut s'accrocher à un poste pour l'an prochain ou, avec le choix des Panthers, les Bears vont prendre un corps arrière. Caleb Williams, probablement. C'est à peu près le seul point d'intérêt qu'il y a à surveiller là, parce que écoute, c'est la saison est
parler,
finie.
J'ai hâte d'en parler plus en profondeur de Caleb Williams. J'ai hâte que tu me convainques. Ouais. Mais moi aussi, je vais prendre les Bears.
Moi, ouais, les Bears, c'est ça. Moi aussi, on est deux.
Les Dolphins reçoivent les Cowboys. Les Dolphins sont favoris par 1.5 à domicile.
Ben là, je te laisse y aller, Jean-Nic, en premier, à tout seigneur.
Oui, je sentais ça. C'est malheureux. On va affronter une équipe qui vient de perdre un match important sur la route. Je pense qu'ils vont se regaillardir. Ils vont s'attendre à un jeu au sol un petit peu plus que contre les Bills. Les Dolphins sont maganés, là. Ça ira pas mieux. Cette semaine, on était chanceux d'affronter les Jets. Encore, la O-line est dévastée. Notre tertiaire est dévasté. Est-ce que Tyreek Hill va jouer? On pense que oui, mais il va être à quoi? 70-80% maximum. Tu vas me dire, ils ont bien fait sans Tyreek Hill avec une bonne défensive contre les Jets. C'est vrai. Est-ce qu'on est capable de répéter ça? Je pense que ça va être serré. Mais Dak Prescott, qui est en mission pour avoir le MVP, et son équipe aussi veulent qu'il retrouve le chemin du favori pour le trophée. Je pense que les Cowboys vont se retrouver ensemble pour former une équipe et vont gagner un match serré contre les Dolphins à Miami.
Jean-Nic, comment je te dirais ça? J'aimerais ça te ramener. Puis tu sais comment que j'ai travaillé fort avec toi cette année.
C'est vrai. Mais là, je comprends que t'es en train de rallier le côté sombre de la force. C'est
ouais,
bien ça.
C'est les Cowboys qui vont gagner ce match-là. T'as raison.
Je sais.
Puis tu sais, c'est pas parce que j'aime pas les Dolphins, c'est pas parce que je crois pas en eux. Au contraire, depuis le début de l'année que je te casse les oreilles, que c'est sûr qu'ils font une série, puis blablabla là. Mais je pense que les Cowboys ont le style de défense qui peut faire mal aux Dolphins. C'est deux excellents demi de coin. Micah Parsons qui va s'amuser contre cette ligne à l'attaque-là. Je sais que les Cowboys jouent mal sur la route, une fiche de 3-4. Puis tu sais, tu parles des Dolphins qui sont pas bons contre les clubs gagnants. Là. Les Cowboys sont 1-3 contre les clubs gagnants. Fait que ça va être serré. Mais c'est ça. Pour les raisons là, de défense que je t'ai données, ben écoute, je suis pas capable de te remonter le moral cette fois-là. Va falloir que tu le fasses.
Au contraire, là, ça me regaillardit de savoir là, que tu as enfin rallié le côté négatif. Je me fais accuser d'être négatif. C'est vrai, là, mais c'est que hey. Tu es un partisan. Toi, t'es l'expert, moi, je suis un fan irrationnel, fait que j'ai le droit.
Ça m'empêche pas d'être un fan, mais...
C'est... Mais t'es un expert. C'est pas mon cas.
J'ai rarement vu dans ma vie quelqu'un chialer autant après quelque chose qui prétend être son équipe. Je suis sûr qu'à quelque part, t'es haï, il y a quelque chose, là. Tu dis pas tout. Il y a quelque chose.
Écoute, quand t'auras pas gagné un match éliminatoire depuis 23 ans, tu m'en reparleras.
Mais j'ai eu ma part de moments très crève-cœur avec les Vikings. Hein. Je pourrais te faire la nomenclature.
23 ans.
J'ai pas de Super Bowl.
Ouais,
puis pourtant.
J'étais pas né.
Bon, là, il y en a. Les fans des Vikings vont dire que je suis pas plus positif. Je les ai mis perdants dans les deux dernières semaines. Mais généralement, j'essaie de voir les choses du bon côté.
La dernière fois que les Dolphins ont remporté un match éliminatoire, il y avait des tours jumelles à New York. OK, ça te donne une idée.
Ouais.
Les Broncos reçoivent les Pats. Les Broncos sont favoris par 5.5. On peut-tu y aller rapidement sur celle-là? On prend les deux, les Broncos, ou t'as une surprise dans ta main?
Ouais, j'y vais avec les Broncos. T'sais, écoute, on sait jamais comment ils sortent d'une semaine à l'autre, mais je me dis, même s'ils sortent mal, ils peuvent pas sortir plus mal que les Pats.
Kansas City reçoit les Raiders. Ça aussi, ça risque de pas être un match intéressant, surtout qu'il y a une équipe éliminée. Les Chiefs sont... C'est intéressant de voir comment ils vont se replacer en vue d'un grand parcours en éliminatoire. Ils sont favoris par 10 points, je prends les Chiefs.
Ben moi aussi, ce que je surveille dans ce match-là, c'est à quel point l'attaque peut se réveiller. Parce que Mahomes contre les Raiders, 11 départs, 10 victoires, une défaite, 29 touchés, 3 interceptions seulement, puis 303 verges en moyenne. Autrement dit... Les Raiders sont le punching bag de Patrick Mahomes. C'est le genre de match où tu veux voir l'attaque vraiment rebondir du côté des Chiefs.
Je sais qu'on les a malmenés au bar la semaine passée. Je sais pas si je sais pas qui est ton client au bar. Tu m'arrêteras, mais on peut-tu se dire que Tony, là, ça devrait être benché, ça, là?
C'est parce qu'il est rendu dangereux pour les Chiefs, là. C'est pas juste qu'il fait des erreurs. Il est dangereux. Ça fait 2 passes qui échappent cette année qui finissent en interception. Là, il est aligné offside, il annule le plus beau jeu offensif de l'année dans la NFL. Il est très, très dangereux pour l'attaque des Chiefs. C'est plus drôle. Mais est-ce qu'ils ont le luxe de le bencher?
Vas-y.
Est-ce qu'ils ont le luxe de le bencher?
Ouais.
Il n'y a plus de receveur là-bas, à part Rashee Rice qui connaît une très bonne première saison. Là. Ça fait dur.
Les Eagles. Eux, 10.5 favoris contre les Giants à domicile. Tu vois-tu une surprise là?
Non, pas de surprise. Là, ça semble s'estomper un peu. Tommy DeVito. Puis défensivement, les Giants sont pas capables d'arrêter le jeu au sol. Jalen Hurts, qui est quand même pas égal à lui-même là, ces temps-ci, je serais pas surpris que les Eagles se retournent vers beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux au sol avec DeAndre Swift pour aller gagner ce match-là assez aisément.
49ers favoris par 5 points. Moi aussi, je prends les Eagles par ailleurs. Les Eagles devraient pas finir avec 7 défaites consécutives. Les Niners reçoivent les Ravens dans ce qui pourrait bien être le Super Bowl du 11 février. Est-ce que ce match-là va être joué comme un Super Bowl ou les deux équipes vont essayer de se ménager en vue d'un duel prochain?
Écoute, comme tu dis, là, ça serait la logique. C'est très, très logique, là. Tu sais, je comprends qu'il faut pas s'énerver en décembre, mais dans l'américaine, les Ravens semblent quand même au-dessus de la mêlée. Les Niners, clairement, dans national. Puis, sont en feu. Ce que j'ai hâte de voir, c'est qu'ils sont sur une séquence de 6 victoires, 34,5 points en moyenne dans ces 6 victoires-là, mais les Ravens, ils donnent 16 points par match. Fait que, tu sais, c'est force contre force. L'attaque au sol des Ravens, qui est vraiment leur atout, le 163 verges par match, mais là, ils ont perdu Keaton Mitchell, le porteur de ballon. Puis je trouvais que Duchamp arrière, c'était pas mal celui qui amenait la vitesse. Tu sais, je te dis pas qu'ils ont pas d'autres porteurs de ballon, mais il y en a pas un qui est menaçant là, côté vitesse, tu sais, sur le périmètre.
Perte,
ça peut faire mal. Puis il faut pas oublier une chose, même si Mitchell avait été là, les Niners est-ce qu'il y a une facette où on peut dire, ouais, ça, c'est une vraie déficience chez les Niners? Je suis pas sûr. Tu regardes contre le jeu au sol, ils sont troisième. Ils sont des meilleurs aussi contre la passe. J'aime ce que font les Ravens, mais ils passeront pas à travers les Niners. À San Francisco, un long voyage en plus. Je peux pas faire autrement que de prendre les Niners.
Moi aussi, je vais avec les Niners. Je dis pas que je ferai ça au Super Bowl, mais cette fois-ci, je vais prendre eux pour remporter ce match du lundi soir. OK, Steph, on fait une pause et après, c'est les questions du public. Bougez pas. Vous êtes sur la zone payante, c'est le moment de faire un appel à vous. Et oui, parce que c'est le moment où on va répondre à toutes vos questions. On en a eu encore beaucoup cette semaine, Steph.
Il y en a une barque.
Écoute, on va les passer une par une. D'abord, écoute, là, je vais faire une mise au point, Steph. Là.
Oh, ouais, je t'écoute.
On va commencer avec notre ami Thomas de Bordeaux. Et je sais que... Puis là, c'est drôle, cette semaine, il y a eu beaucoup de commentaires sur le fait que j'imitais, c'est surtout moi, là, toi, Steph, tu t'es tenu loin de ça, là, mais que j'imitais régulièrement des accents français et que ça dérangeait. Là, je sais pas comment dire ça. Là,
c'est drôle, en fait, parce que les commentaires sont arrivés, on n'avait pas à date, puis là, sont arrivés en même temps. Fait qu'on s'est posé la question.
Ouais, c'est ça. Là. Il y a plusieurs personnes que ça déplaît. Il y en a d'autres qui m'ont dit que c'était vraiment drôle. Écoutez,
ouais,
je veux juste comme
il y a, dire... il y a eu ça aussi, il faut le dire. Là, il y a eu autant, sinon plus, de commentaires qui disaient « Ah, c'est tellement drôle, j'en ai qui est bon. » Fait que
ouais, maintenant, mais
on
s'est dit «
OK, on va se poser la question. » Tu sais.
Ouais, il y a eu au moins trois personnes qui nous ont écrit avec des bons points là, tu sais, là, sur le fait que « Est-ce que j'imiterais un accent vietnamien ou est-ce que... » tu sais, là, je veux juste dire une chose, là. Je dis pas que je suis français, mais j'ai fait mon école en France. J'étais à Aix-en-Provence quand j'étais jeune. Et j'ai aussi, plus tard dans ma vie, travaillé en France. J'étais animateur de radio en France. Donc, les Français, je dis pas que je suis français, mais je dis pas que ça me donne la légitimité de faire des imitations de français, mais un peu quand même. Là, j'y connais bien les Français. C'est plus que mes cousins, là, ça a été mes collègues de travail, ça a été des collègues de classe, ça a été... Donc, quand je me plais à imiter les Français, c'est parce que moi-même, j'ai eu cet accent-là. Quand j'avais 11-12 ans, puis que j'étais à Aix-en-Provence, là, je peux vous dire que quand je suis revenu au Québec, là, ça m'a pris plusieurs années perdre mon accent français. Là, et c'était un accent du Midi, hein? Alors, je parlais comme ça. Je ne me parlais pas comme un Parisien.
J'aurais voulu t'entendre à 12 ans.
Ah oui, puis tu sais, je faisais rire de moi quand je revenais ici. Donc, c'est tout en affection, en amour là, que j'imite les Français. Puis c'est drôle en plus, ceux que ça dérange, c'est des gens qui semblent être des Québécois en plus. Tu sais, est-ce qu'on est rendu susceptible? Tu sais, je pourrais pas toujours expliquer ça à chaque début de réponse des questions quand je vais imiter les Français. Fait que je vais le faire moins. Là. J'avoue là, que j'ai peut-être un petit peu... abusé dans l'imitation des Français, puis je pourrais pas faire cette mise au point là pour mettre en contexte à chaque fois. Donc, pour un
puisque t'as étalé une tranche de vie, je vais m'en permettre une moi aussi.
Ah ouais, quand même. Ah ouais.
Je vais en rajouter un petit peu. Moi, ma blonde est française. Fait que si je me mets à imiter un accent ou quoi que ce soit ou à rire pendant que t'en imites un, là, écoute. Si j'avais pas d'affection pour les Français, je serais mal pris dans ma vie là,
oui.
Avec madame. Non, puis écoute, s'il y a aucun problème là, je pense que c'est évident que c'est pour s'amuser, mais peut-être comme tu dis que réduire un petit peu la note.
Ouais, ouais.
On espère qu'on a perdu personne avec ça parce que c'est juste vraiment amusant puis sympathique, là. Il y a rien de plus.
T'sais, moi, je suis toujours heureux de faire réagir les gens quand même, là. Fait que je suis content qu'il y ait des gens pour qui ça a eu une réaction. Puis continuez d'en nous envoyer. C'est un jeu, toute cette émission-là aussi. T'sais, on le fait pour vous, puis nous, on a du fun aussi. Fait que n'hésitez pas à nous donner vos commentaires, que ce soit sur mon accent, que ce soit sur Steph qui... Qu'est-ce que toi, t'as pas de défaut, c'est malheureux, mais trouvez-y
un. Non, c'est, écoute, il y en a une personne au Québec qui a pas de défaut, c'est Laurent Duvernay-Tardif, tu le sais.
C'est vrai, d'ailleurs, que
le reste du monde a des défauts.
Au Salon du Livre, c'est foutu qu'il
pour
soit
vrai?
Parfait, mais oui.
C'est sûr que tu vas le croiser au Salon du Livre.
C'est impossible. OK, on commence avec Thomas de Bordeaux. Et Thomas, donc...
De Bordeaux.
Ouais, de Bordeaux. Thomas qui nous rappelle nos scores de la semaine qui sont affreux. Ben, en tout cas, 8 en 16 pour moi. Fait que ça je poursuis ma déveine. Steph a 9 en 16. Ouais. Et c'est vrai que je tirais un peu la pipe à Thomas la semaine passée en disant qu'on attendait lui, c'était quoi ses résultats. Mais ben, lui, il est 12 en 16 cette semaine. Est-ce qu'il nous la met où on pense?
Hey, honnêtement, là, tu peux bien imiter l'accent, hein, mais c'est lui à la fin qui se fout de ta gueule.
Oui. Donc, bravo à Thomas. OK, sa question, vu qu'il y a une bonne semaine, on va lui permettre de poser une question. Avec cette cascade de blessures chez les Browns, en passant de Deshaun Watson à Joe Flacco, en perdant Nick Chubb et la totalité des titulaires de la ligne offensive, ça c'est vrai, là, une autre équipe qui m'a gagné. La ligne offensive, c'est bien les Browns, mais en obtenant tout de même un bilan de 9 victoires, 5 défaites, pardon, et sûrement une place en série, est-ce que Kevin Stefanski n'est-il pas le mieux placé pour obtenir le titre d'entraîneur de l'année?
Ouais, ben il est dans moi il serait dans mes 3 finalistes, Stefanski,
ah oui?
Parce que ouais, je suis content que Thomas ait mentionné autre chose aussi que les corps arrière, parce que Nick Chubb, là, écoute, c'est une perte énorme. Puis, ils sont rendus à 3 bloqueurs offensifs qui sont finis. Là. Fait que ta ligne à l'attaque, là, c'est pas juste, ouais, il y en a un qui est pas là de temps en temps. Là. Les 3 meilleurs tackles de l'équipe sont pas là. Il y a eu toutes sortes d'adversités comme ça. Puis, il y a quelque chose aussi que j'ai vu cette semaine que j'avais pas réalisé puis qui est vraiment fascinant. Kevin Stefanski est le premier coach à Cleveland à aligner 2 saisons gagnantes de suite depuis Marty Schottenheimer de 86 à 88. Fait que ça, là, pour moi, c'est signe de quelque chose. Tu sais, il se passe jamais rien à Cleveland. Ils sont toujours victimes de tous les malheurs sur la terre. Lui, il arrive là, il réussit à aligner 2 saisons gagnantes de suite malgré tout. Les gars qui sont tombés cette année, ben, chapeau Stefanski, c'est sûr moi qui est dans mes 3 candidats au final.
Moi je vois DeMeco Ryan, je vois Dan Campbell, puis je vois quand même Kyle Shanahan. Fait que je pense pas qu'il se fait une place dans mes 3. On va voir à la fin de la saison là, s'il gagne ses 3 derniers matchs, on verra là. Mais
on en reparlera à la fin. On a une autre question aussi sur les coachs, mais ce sera l'occasion d'y revenir.
Ouais, on a pas mal de questions. On va essayer de les enfiler. Salut les gars, je vous écoute religieusement toutes les semaines. Continuez votre bon travail. Question de Samuel. Où est la limite pour un corner à ne pas franchir pour ne pas avoir de flag? J'ai l'impression qu'ils ne peuvent plus rien faire. Soit ils laissent le wide receiver attraper pour plaquer ensuite, ou s'ils tentent quelque chose, c'est un foulard automatique. Et Samuel me dit, PS, Jean-Nic, je suis partisan des Ravens. J'ai hâte de rencontrer tes Dolphins. Je ne crois pas que c'est gagné d'avance. T'as raison. C'est pas cette semaine qu'ils vont gagner contre les Dolphins. Faut que t'attendes encore une autre semaine.
Oh.
OK.
Jean-Nic.
Je sais. Vas-y, est-ce que...
Merci.
Pourquoi les corners? Est-ce que c'est vrai que les corners, ils ont plus de marge de manœuvre?
Ben, il y en a pas beaucoup. Merci, Samuel Vanouch. Je me demande si c'est pas ta première question, mais en tout cas, merci. Écoute, est-ce qu'ils ont plus de marge de manœuvre? Il y en a pas beaucoup, mais c'est comme ça depuis quand même plusieurs saisons. Il y a rien de nouveau cette année. Je pense pas qu'il y ait une emphase particulière sur les interférences de la part des arbitres, là. Pas que je sache. En tout cas, j'ai pas vu de chiffres passer à cet effet-là qui ont été nécessairement frappants. Mais tu sais, ils savent, là, qu'en gros, tu peux pas agripper le chandail, tu peux pas retenir un bras. Tu peux pas t'interposer devant une passe si tu t'es pas retourné d'abord. C'est pas mal les mêmes règles générales. Est-ce qu'il y en a plus cette année? Ça serait à vérifier, mais moi, je pense que partout où il y a des calls d'arbitre qui impliquent un jugement humain, il va y avoir de l'erreur humaine. Je suis pas prêt à dire que cette année en particulier, tu sais, ils ont plus de marge de manœuvre, qu'ils peuvent plus rien faire. Puis je le vois pas comme ça. Désolé, Samuel, mais je pense pas là, qu'il y a quoi que ce soit de particulier cette année.
Jean pose la question, pensez-vous que les Bills vont remporter le championnat de la division S de l'AFC?
Ben là, on ne demandera pas à Jean-Nic, là. Je pense que la réponse est claire. Moi, je te dirais que c'est encore oui, vraiment, dans le domaine du possible.
La réponse est claire, mais elle va se jouer au dernier match.
Ben oui, parce qu'il y a une, question de calendrier aussi, Jean, là-dessus. Tu regardes les Bills à ce stade-ci, puis j'insiste sur à ce stade-ci parce que ils l'ont mauditement pas eu facile, leur calendrier, les Bills. Ça a été tough en maudit. Mais là où ils sont rendus, il y a un petit peu de, souffle qu'ils peuvent reprendre. Puis c'est là qu'il y a un danger de se laisser aller, par exemple. Mais ils affrontent les Chargers et les Pats. T'sais, c'est quand même un beau cadeau, là, en théorie, à ce stade-ci, alors que les Dolphins sont pognés contre les Cowboys et les Ravens. Fait qu'on peut facilement imaginer un scénario où on arrive à la semaine 18, que si les Bills battent les Dolphins, ben c'est bonsoir, merci, on gagne le championnat de division, là, à cause du calendrier du moment.
Carl nous pose la question, le retour de Pacheco pleinement fonctionnel cette semaine, est-ce que c'est possible?
Oui, puis en passant, je suis intrigué parce que Carl Obi-Wan Fortin, là, je sais pas le Obi-Wan vient de où, mais c'est intéressant. Ben c'est le plan. Andy Reid a dit cette semaine que oui, Pacheco avait subi une opération mineure à l'épaule la semaine passée. Fait que c'est sur le coup, ça fait peur. Une opération, sa saison est finie. Mais non, c'était une procédure très mineure. Puis ce qu'il a dit Reid lundi, c'est que à moins d'une régression là, soudaine durant la semaine, Pacheco est good to go. Puis tu sais, c'est très bon là pour tout le monde parce que Clyde Edwards-Helaire puis Jerick McKinnon, tu sais, ils ont fait du boulot quand même correct. Les deux ont pogné une passe de toucher, je pense. McKinnon en a même lancé une sur un jeu assez spécial. Mais je pense qu'il y a rien comme Pacheco en termes d'énergie dans le champ arrière. Là, c'est vraiment le petit lapin énergiseur quand il court.
Martin pose la question, pourquoi les experts, entre guillemets, hésitent autant à donner du crédit à Brock Purdy pour les succès des 49ers? On dit qu'il est un corps moyen dans un excellent système, mais Jimmy G jouait dans le même système sans avoir les mêmes chiffres que Purdy.
Ouais, je suis dans la team Martin Lambert là, qui met expert entre guillemets parce que moi j'en peux plus là. Tu sais, à un moment donné, combien de temps faut que le gars fasse ses preuves? Il joue carrément à un niveau MVP cette année là. Il est dans la discussion officiellement. 29 passes de toucher, 4 interceptions seulement. Il fait pas d'erreur, puis.
Oui, mais
il va falloir m'emmener se poser la question. Là. Qu'est-ce qu'il y a de si mal? Admettons là, qu'on dit, ouais, c'est pour l'instant, à ce stade-ci de sa carrière, très peu avancé, il faut le rappeler. Admettons que c'est un corps arrière de système. Qu'est-ce qu'il y a de si mal à ça? Là?
Non, mais tantôt, j'ai volontairement jeté le nom de Kyle Shanahan dans Entraîneur de l'année. Je suis content que tu ne m'aies pas repris parce que si tu m'avais repris, je t'aurais repris cette fois-ci. Parce que plusieurs ne voient pas Kyle Shanahan comme l'entraîneur de l'année. Là, parce qu'ils disent qu'il y a une trop bonne équipe.
OK, fait que là, Kyle Shanahan peut pas être coach de l'année, il y a une trop bonne équipe.
Non, mais moi, je le mets.
Brock Purdy, lui, il peut pas être carrière de l'année, il peut pas être MVP parce qu'il y a un trop bon coach. Hey, ça devient fourrant, là, tout ça.
Non, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, la seule chose, moi, qui nuit, entre guillemets, là, à Brock Purdy, c'est un peu la même chose à Miami, là. Tu sais, là, je comprends qu'il est loin dans la discussion d'MVP, mais il est dedans un peu, là, toi. Mais Tyreek aussi. Fait que là,
ouais.
McCaffrey dans la discussion pour l'MVP à San Francisco, puis Purdy aussi. Fait que là, tu dis, ben là, c'est-tu parce que un est là que l'autre est là? Puis là, plus pire encore, ça se peut qu'ils se splittent les votes rendus au jour du vote. Fait que là...
Moi, la façon que je vois ça, c'est que est-ce que Purdy jouerait à, je sais pas moi, à Chicago, puis il serait aussi bon? Fort probablement pas. Sauf qu'il est à San Francisco, il joue extrêmement bien, puis il n'y a pas un quart arrière avant lui dans le système de Kyle Shanahan qui est aussi performant, c'est même pas proche. À ce stade-là, moi, je comprends pas qu'on s'acharne encore à dire, ouais, je sais pas, corps arrière de système, game manager, ouais, un game manager qui lance 9.9 verges par passe tentée. J'en ai pas vu souvent, tu sais. Puis malgré cette moyenne de passe-là qui est très élevée, c'est la plus élevée parmi les partants de la NFL, il complète 70% de ses passes. J'ai vraiment de la misère en ce moment, là, à trouver des grosses carences dans le jeu de Brock Purdy qui me font dire, ah, si c'était pas de la marionnette Kyle Shanahan qui le manipule, ce gars-là serait pourri. Là. Je pense quand même qu'on y doit un certain respect.
Stéphane, un autre de nos auditeurs de Bordeaux, et ça, c'est bien aussi, là, notre communauté internationale est très vivante, puis on vous invite à continuer de nous écrire. D'ailleurs, on n'a pas de nouvelles de Lauriane cette semaine, là. Je suis inquiet.
J'espère c'est peut-être ton imitation de l'accent qui l'a froissé.
Ça peut fort bien, ou de l'avoir traité de pingre en Auvergne.
Ça, okay. C'est encore pire.
Donc, Stéphane qui dit la question, qui nous pose la question. Jean-Nicolas, il faudrait garder la foi pour les Dolphins.
Ouais, c'est pas juste moi qui te le dis, là.
Je sais. Après leur victoire logique face aux Jets, d'après ESPN, ils ont 99% de chances d'aller en playoff. Ça,
j'ai passé. Les modèles de probabilité.
Ah, ça, là. J'ai passé, je pense, quasiment une partie de la nuit après le match des Cowboys à faire des probabilités. Et là, j'en suis venu à la conclusion que le plus gros risque pour les Dolphins, ce sont les Texans. Donc, les Texans ont plusieurs bris d'égalité, pas juste sur les Dolphins, mais c'est l'équipe qui doit le perdre pour que les Dolphins puissent faire les séries à 17. Et les Broncos, donc deux équipes qui ont des bris d'égalité suffisants pour déclasser les Dolphins si jamais il y a égalité. Alors, Stéphane qui dit « J'ai une question pour la prochaine émission, donc la voici. Plutôt côté business que sur le terrain. L'expérience ratée des Browns avec Deshaun Watson, on va attendre un peu avant de dire qu'elle est ratée, mais on comprend ton point, Stéphane.
Mm-hmm.
Sonne-t-elle la fin des contrats 100% garantis dans la NFL? À bientôt dans la zone payante. »
Je pense que pour un bon bout, oui, parce que l'occasion était là pour les joueurs là, de mettre un pied à terre puis de dire c'est comme ça que ça va se passer maintenant, parce que t'avais des gros canons dans la dernière saison morte qui négociaient. Là. T'avais Joe Burrow, t'avais Justin Herbert, t'avais Lamar Jackson. Tu sais, ça brassait pas à peu près, il faut s'en rappeler. Là. Jackson était rendu à 2 semaines avant de signer, il avait demandé un échange aux Ravens. Là. Fait que ça brassait beaucoup. S'il y a un moment où les joueurs avaient la chance de mettre leur pied à terre puis de dire, écoute, là on a trois des tops de la ligue, c'est le temps. Ils l'ont pas fait. Moi, je pense pas. Je pense que les propriétaires comprennent à quel point c'est un risque là, vraiment, vraiment trop énorme. Puis la fenêtre pour ça est passée. En tout cas, je pense pour un petit moment.
Luc nous pose la question suivante. J'ai une question à propos de la présentation des joueurs à la télévision. Lors du match de dimanche soir, le 10 décembre dernier, entre Eagles et Cowboys, pourquoi Devontae Smith et Jalen Hurts ont dit lors de leur présentation qu'ils étaient diplômés de leur high school respectif plutôt que l'université de Alabama ou Oklahoma? Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas diplômés?
Ah, merci Luc Benoît pour la question. C'est pas une question de diplôme, c'est que souvent un joueur, ça va s'être mal terminé, admettons, avec son université. Il y a eu de la bisbille un peu, des petites chicanes ici et là. Ou des fois, c'est tout simplement, moi ce que j'avais vu des fois, il y a certains joueurs qui estiment qu'ils ont eu leur meilleure période de leur vie au secondaire, puis qui préfèrent se rattacher à cette époque-là. C'est toutes sortes de raisons comme ça, là, mais c'est pas rattaché à un diplôme.
Il y en a aussi qui sont des clowns, puis ça fait 14 Monday Night qu'ils font, puis ils finissent par dire c'est quoi leur elementary school, puis ils ont aucune obligation dans ces affaires-là. OK, on poursuit.
Ça, ils s'amusent un peu. Ouais.
Le sujet de la NCAA, parce que Fabrice nous pose une question un peu là-dessus. Il dit, j'ai trois questions pour vous qui comparent la NFL à la NCAA. Un, est-il plus impressionnant pour un joueur de gagner un Heisman ou un MVP? Es-tu capable de répondre ça en deux mots, Steph?
Pour moi, tu sais, écoute, Heisman, c'est le joueur le plus utile au college, puis MVP, joueur le plus utile dans la NFL, c'est l'équivalent. Quand même que tu dirais, ouais, mais MVP, c'est plus gros, c'est la NFL. Non, parce qu'à un moment où le joueur gagne le Heisman au niveau universitaire, tu peux pas faire autrement qu'être très impressionné par ce trophée-là. Fait que pour moi, ça s'équivaut.
Ah ouais, moi, c'est MVP NFL quand même. Sport professionnel avant le sport amateur, mais j'entends ce que tu me dis. Est-il plus impressionnant pour un coach d'avoir du succès dans la NFL ou dans la NCAA?
Là, par contre, moi, j'irais avec la NFL, clairement, parce que c'est rien pour dénigrer les coachs de la NCAA, mais un, on a vu plusieurs qui sont passés dans la NFL qui l'avaient pas pantoute. Deux, c'est que tu gères des gros égos, des gros salaires, t'as pas les mêmes facilités de recrutement, tu sais, c'est pas juste je m'en vais voir le jeune, j'essaie de le convaincre. Faut que tu repêches, faut que tu prennes les bonnes décisions, faut que tu prennes les bonnes décisions pour tes dépenses sur le marché des agents libres. Je pense qu'il y a beaucoup plus de critères qui rentrent en ligne de compte que simplement le coaching et le recrutement. Pour ça, je dirais NFL.
Troisième question, Fabrice, t'es chanceux, c'était ton jour de chance, on t'en accorde pas mal, mais est-il plus prestigieux pour une équipe de gagner un National Championship ou un Super Bowl?
Moi, je dirais le Super Bowl quand même, là. C'est quand même le championnat professionnel. Ce qui est impressionnant du National Championship, c'est que en tout cas, là, ça va changer l'an prochain avec 12 équipes en série. Mais depuis quelques années déjà, là, c'est 4 équipes en série. Tu n'as vraiment pas grand chance au college de faire les séries. Tu peux avoir une fiche parfaite, on l'a vu cette année avec Florida State, puis pas faire les séries à cause de toutes sortes de facteurs là, autres. Fait que ça, c'est impressionnant, mais ça reste qu'un Super Bowl pour moi. C'est le pinacle du sport.
OK, Luc Mamereau et notre ami PPL Roussovski qui s'inquiètent tous les deux des Eagles. Est-ce que tu es inquiet pour Hurts et les Eagles, Steph?
Ben, je suis inquiet au sens où je vois pas en ce moment là qui apporterait quoi que ce soit comme changement, comme amélioration. Je vois mal comment ils peuvent battre les Niners dans la conférence. Maintenant, est-ce que je suis inquiet? Je pense qu'ils sont encore, dans mon esprit, là, les numéros 2 dans la nationale, mais c'est sûr qu'il y a des choses à changer. Jalen Hurts, quand même, beaucoup plus. Il y a le double d'interceptions par rapport à l'an passé, 12 au lieu de 6. Fait que beaucoup plus d'erreurs. Là, c'est sûr que c'est inquiétant à ce niveau-là.
Steve, qui pose une question qui m'intéresse. Sa première question, c'est est-ce que c'est juste le QB en attaque et le capitaine en défensive qui ont le droit à une communication radio? Puis le blackout radio a lieu à 15 secondes. Je pensais que c'était 20, mais ça se peut que ce soit 15. Mais dans la
draft... Ouais, c'est
15. OK. Répondons à la première question. Est-ce que le QB en attaque et le capitaine en défensive sont les seuls à avoir la radio dans leur casque?
Ouais, c'est les deux qui communiquent avec les coachs. Okay. QB, puis la vaste majorité du temps, c'est un linebacker, là, un inside linebacker, là, souvent qui est le général.
Le blackout radio a lieu à 15 secondes, mais dans une drive sans caucus, est-ce qu'on coupe la communication?
Je pense pas qu'on coupe la communication, mais tu sais, parce que t'as, même dans une attaque sans caucus, t'as 40 secondes, là, à ce que je sache, entre les jeux. C'est pas le nombre de secondes qui diminue, c'est que t'exécutes plus vite. Donc, forcément, ça communique beaucoup plus vite. Je pense que dans ce temps-là, le corps arrière a plus de liberté à ligne de mêlée. Puis souvent, on va même appeler aussi deux jeux de suite pour essayer de faciliter, là, tu sais, quand tu arrives à la ligne de mêlée, est-ce que tu snaps le ballon à terre ou tu as tout de suite un autre jeu en banque?
Fait mais c'est des sûr façons, que si là, d'accélérer. Si ils sont 7 sur la ligne, il peut plus parler. Là.
Non, ça, tu peux pas, là. C'est impossible.
OK.
Tu peux pas parler jusqu'à la dernière seconde, mais
même sans
le
caucus,
règlement là. Exact à ce niveau-là, par contre, là, ça serait à vérifier parce que j'ai rien
mais
trouvé.
Ça m'intéresse, j'aimerais ça savoir là. Quand est-ce qu'il coupe est-ce que c'est quand le caucus est break? Mais en tout cas, Martin Guy qui pose la question. On voit de plus en plus... il nous dit que ça serait bien d'avoir des invités de temps en temps, mais on y pense, là, Martin Guy. Là,
on va à la fin de la saison, comme on disait, un petit débrief.
Ouais,
là, puis...
ouais, exact. C'est la question qu'il pose. On voit de plus en plus souvent des bottées d'envoi entre les poteaux. Pourquoi ne pas tenter des placements de 75 verges?
Ben là, c'est parce que c'est beaucoup plus dur la façon de botter un placement avec la pression qui t'arrive d'en face. Tu sais, t'as pas de temps de réaction. Il faut que tu bottes vite, il faut que tu bottes précisément dans un laps de temps très, très court par rapport aux bottées d'envoi où t'as personne dans ta face puis tu peux y aller là, pas mal plus librement. Là. Je pense pas que tu peux dire demain matin, « Ah, vu qu'on a fait un botté d'envoi de 80 verges, ben on est capable sur un placement. » C'est le même depuis la nuit des temps.
Mais sauf qu'on les voit de plus en plus loin. Il est pas impossible qu'un jour on essaie un placement de 70 verges, mais...
C'est pas impossible, parce que quand moi j'étais jeune, je me souviens pas qu'on voyait des placements verges, de 60, c'était rare. Là.
Ouais, moi tout.
Écoute, il y avait le record de 63, il a tenu...
Le gars avec son pied en bois, là.
Tom Dempsey, je pense, ouais, le pied est coupé. Puis ça, écoute, on pensait pas que ça serait battu, puis ça a été battu tard, là, quand même. Ouais, hein. Fait que oui, ça se peut un jour, mais, tu sais, faut pas conclure que parce que les bottées d'envoi sont longs, c'est quand même pas mal plus technique là, un botté de placement.
Alain qui nous pose la question, pourriez-vous nous donner une idée des salaires des coordonnateurs défensifs et offensifs ainsi que des entraîneurs de position? T'as-tu ça sous la main, mon Steph?
Ouais, ben ça c'est très 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 variable là, mais en moyenne ce que je voyais, les coordonnateurs offensifs ou défensifs, c'est pas mal dans le range d'1 million. Mais tu peux en avoir qui sont plus payés. Tu sais, un Dan Quinn, là, que ça fait plusieurs années qu'il reste à Dallas, même s'il y a des offres d'entraîneur-chef ailleurs, je pense que forcément son salaire doit être plus élevé. Puis pour les entraîneurs de position, on dit que grosso modo, là, ça va varier entre 100 000 à 500 000 environ, ce qui est quand même étonnant. Ouais, c'est pas mal d'argent.
Ouais. Le moment, Robin?
Oui, monsieur.
Un beau moment qui arrive en fin de séance de questions. Robin, on t'a pas oublié cette fois-ci.
Puis fallait qu'il te parle du sifflet pour qu'on n'aille toujours pas.
Mais non, c'est vrai. J'étais encore dans la voie de garage avec le sifflet là, cette semaine.
Il est où, ton sifflet?
Je sais pas. Je sais pas quoi te dire. Là. Il est vraiment... je me suis fait couper le sifflet. Oh, 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 oh. Hein? Ça, c'est futé hein, comme jeu d'esprit.
OK. Ouais, 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 ouais.
Son commentaire, parce qu'il pose pas juste une question, Robin. Il commence avec un commentaire. Lui, il a le luxe de nous donner un commentaire. C'est un privilège qu'il a.
Mais c'est parce qu'il fait partie des meubles. Il bénéficie de la clause grand-père.
Exact. Donc, il fait en effet référence au sifflet. Il dit, il aura fallu qu'on manque de sifflet pour réaliser que ça nous le prend absolument. T'as raison, là. Je vais essayer de régler ce problème-là, mon cher Robin.
Là, c'est pas moi qui le dis, c'est Robin. Écoute, Robin.
Tout comme le thème musical, j'espère qu'il est formidable. Ouais. Il va falloir que je donne un petit coup d'un tour de vis, ou en tout cas, je sais plus quoi l'expression, là. Un coup de roue, un tour de roue, un coup de vis. Il est là.
Pas facile, hein?
La question de Robin. On va y aller avec sa question. Moving on. Quels sont présentement vos deux finalistes comme coach de l'année? On en parlait tantôt. J'ai devancé la question de Robin. Pour moi, pour Robin, il s'agit de ceux des Texans et des Browns. Et vous? Mais moi, je l'ai dit tantôt, rapidement, je vais le redire. Là. Je pense que les Texans sont bien placés. Je pense que Dan Campbell, si au moins il finit, Dan Campbell va mériter de sérieuses considérations. Et je pense encore que Kyle Shanahan complète le top 3 des meilleurs entraîneurs pour moi cette année.
Ben, moi, j'ai Texans et Browns comme Robin. Pour les raisons que j'expliquais tantôt, les Browns. Puis les Texans, écoute, DeMeco Ryans, là. Qui attendait les Texans à la porte des séries?
Il va falloir qu'il fasse, par exemple. Il va falloir qu'il fasse pour qu'il soit considéré.
Ouais, ben, il va être considéré, mais pour gagner le titre, je pense qu'il faut qu'il fasse. Ouais, mais il va être considéré. Les Browns, ben, ils vont probablement faire les séries, à moins qu'ils s'écrasent d'ici la fin, là. Dans les autres candidats, c'est sûr que Dan Campbell, t'as pas le choix. Les Lions, ça fait, écoute, combien d'années qu'ils ont pas été aussi performants? Puis j'ajouterais, moi, Shane Steichen avec les Colts. Très bonne première saison, là. Écoute, c'est un autre club, ça, qu'on se disait, cette année, ils reconstruisent, il passera pas grand-chose. Là, leur carrière recrue, qui marchait très bien au début de l'année, se blesse. Jonathan Taylor rate les 4 premiers matchs. Ensuite, il revient, il se blesse. Beaucoup d'adversité aussi. Puis ça fonctionne très, très bien pour les Colts, là. Très, très bonne première année. Fait que c'est pas mal mes 4, mais puisque Robin nous dit 2 finalistes, je vais y aller comme lui avec Texans et Browns pour l'instant.
Ah, toi puis Robin, je te dis que vous avez une communauté de pensée. Ça marche, je vais vous laisser ensemble et on va faire une pause. Et après la pause, c'est le moment d'aller au bar. Vous êtes sur la zone payante, c'est le moment tant attendu où nous terminons en beauté notre épisode de la semaine pour se détendre au bar. Alors, Steph, je te laisse la parole. Qui t'emmène au bar, toi, cette semaine?
Ah non, non, vas-y, Jean-Nic, là. Commande.
Ah oui?
Ben oui.
Ah oui, ben oui. T'es bien mystérieux, toi, avec ton bar.
Ah non, cette semaine, normalement,
tu me le dis.
Non, non, il n'y a pas de mystère.
Je te pose des petites questions, OK.
Ah non.
Je vais y aller avec Tom Brady, puis c'est drôle parce qu'on a un de nos auditeurs, Alex, qui lui aussi a abordé un peu le même sujet que Tom Brady a abordé cette semaine. comme quoi les dirigeants de la NFL deviennent de plus en plus soft et pénalisent, suspendent des joueurs en défensive qui frappent fort. Moi, j'ai quand même une... peut-être parce que je vieillis ou peut-être parce que je suis de plus en plus sensible aux blessures, mais je trouve quand même que le travail des responsables de la NFL, c'est d'assurer la sécurité des gars.
Mm-hmm.
Ils vont peut-être se tromper, ils vont peut-être des fois avoir des calls qui sont douteux dans l'optique où la bonne foi prévalait pour protéger les joueurs. Dans le cas précis de la suspension du joueur des Steelers pour le reste de la saison, Tom Brady, là, qui tout à coup là fait des apparitions inopinées à chaque fois que il semble y avoir une suspension que selon lui devrait pas avoir là. Pour Tom Brady, c'est un autre exemple que la NFL devient soft et dans son temps, c'était donc mieux, c'était donc plus tough. Ça fait deux fois qu'on en parle parce que lui aussi avait fait une sortie du genre la dernière fois et on avait dit, et je vais le rappeler, que la plupart des règles qui ont vu le jour depuis une quinzaine d'années sont nées à cause que Tom Brady demandait plus de protection pour le corps arrière. Et là, c'est encore drôle de... J'avoue que là, de blâmer la Ligue parce qu'un safety a frappé un joueur à la tête, après qu'il ait Tom Brady dit que c'était la faute du corps arrière. Ça, c'est l'autre aspect de la déclaration de Tom Brady qui est un peu questionnable. C'est qu'il reproche au corps arrière de mettre les joueurs en danger quand ils prennent le ballon. Ouais. Comment tu peux... Je comprends ce qu'il veut dire. Tu sais, à un moment donné, il y a une place où il faut que tu envoies le ballon pour pas que ton gars se fasse tuer. Mais je m'excuse, mais c'est pas facile. C'est les, il y en a. C'est arrivé souvent que Tom Brady envoyait des ballons puis que comment il s'appelait, Wes Welker ou
Julian Edelman,
tu sais, se sont fait torcher là parce qu'il a envoyé le ballon en circulation. Tu sais, on peut pas blâmer le corps arrière parce qu'il y a un safety qui a voulu têter ton wide receiver, là. Tu sais, j'entends ce qu'il dit, mais dans ce cas-là, je pense qu'il a pas pris un bon exemple. En tout cas, ça montre une chose, c'est que Tom Brady a hâte d'aller dans son rôle de commentateur à Fox, qui est clairement en manque d'attention, là, quand c'est pas une pub sur les expos.
Ah, c'était bon, ça!
Ou une photo avec ses enfants. Et là, il commente sur ce qui se passe dans la ligue qu'il a quitté l'an passé. Fait que moi, j'en déduis que Tom a besoin d'attention.
Tu penses?
Et c'est pourquoi je vais lui offrir un cocktail attention.
Ooh.
Le cocktail attention.
OK.
Peut-être qu'il y en a qui vont dire que c'est un cocktail qui appelle à la prudence. Ce qui se voit aussi dans le cas de Tom Brady, j'aimerais qu'il fasse un appel à la prudence. J'aimerais lui faire un appel à la prudence aussi par rapport à ses infinis commentaires sur la game qu'il vient de quitter. Je prendrais un petit peu de distance. J'attendrais une couple d'années si j'étais lui. La recette du cocktail attention, il est en français, là, la recette. Fait que je vais la dire comme elle est. 2 centilitres de gin, 2 centilitres de vermouth blanc, 2 centilitres de liqueur de violette.
Violette?
On vient de me perdre. Violette, là, pas l'assistante de Jeanne, voyons, chose dans l'amour avec un grand A, là. Voyons, c'est quoi son nom, la madame, là.
Ah, regarde, on va se perdre dans ta liqueur de violette, là.
OK, lecteur de violette. Mais tu te rappelles de Violette, là, qui servait, voyons. Hey, j'ai un blanc terrible.
Ah, ça, c'est pas drôle, là.
Jeannette Bertrand. Voilà, merci.
Ah, Violette.
Dans l'amour
Violette,
est un grand A. Oui, ouais, la Violette qui accompagnait Jeannette Bertrand. Ouf. Dans l'amour est un grand A qui desservait la table, mais c'est pas cette Violette-là. Donc, je recommence. 2 centilitres de gin, 2 centilitres de vermouth blanc, 2 centilitres de liqueur de violette, 2 centilitres d'absinthe et 2 traits d'orange bitters. Voilà ce que je sers à Tom Brady cette semaine au bar. Pour qu'il se calme un peu, le monsieur qui a besoin d'attention, il y a un mot en anglais pour ça, et je le dirai pas, même si ça commence par attention.
Mais, il faut dire que tu y en donnes beaucoup d'attention au fil des ans.
je dois admettre que c'est pourquoi je l'invite au bar, parce que peut-être que je reconnais en lui des parties de moi-même que je renie. Est-ce que tu m'étonnes et tu me dis quel est ton invité au bar?
Ben oui, mon invité, en fait, moi, c'est, tu sais, des fois, faut inviter aussi des chic types qui ont pas fait grand-chose, mais tu sais, qu'il faut à un moment donné leur taper ses doigts. Mon invité au bar cette semaine, c'est quelqu'un qui est beaucoup trop négatif. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, là. C'est comme une maladie. Jean-Nicolas Gagné.
Je savais.
Est mon invité au bar.
Je m'en doutais. Je le savais que t'avais une surprise, là, que t'étais trop mystérieux.
Écoute,
je te connais, Stéphane Cadoret.
Cette saison, là.
Oui.
Il y a eu des fois, c'est correct, les Dolphins vont perdre cette semaine, oui. Mais là, t'es amis perdants contre les Giants puis les Jets cette année. Là. Tu peux pas faire ça, là. Tu peux pas. Tu ne ouais. peux pas. La semaine passée, écoute, là, ils gagnent leur match 30-0 sans Tyreek Hill, avec tous les blessés que t'avais nommés en pleurant ta vie. Là.
Oui.
C'était sûr qu'ils allaient battre les Jets. C'était sûr, il y a juste toi qui le savais pas, Jean-Nic. Puis, à un moment donné, ben ça se paye. Ça se paye et tes torts doivent être exposés au grand public. Et,
mais je me sens bien entouré. Là. J'avoue que, tu sais, il y a plusieurs auditeurs qui m'écrivent puis qui me disent... T'es trop négatif, tu devrais voir le bon côté des choses, les Dolphins vont faire les séries. J'avoue que
je
me sens épaulé. Là.
Je sens par contre que s'ils font pas les séries par un étrange tour du destin, tu vas m'envoyer au bord, puis ce sera justifié. Mais pour l'instant, je te garde une place bien chaude avec un pessimiste requiem, monsieur. Le requiem du pessimiste. Ça te tente?
Ah ouais donc?
Ben écoute, on va commencer.
Est-ce que c'est fort en alcool?
Ben oui, pas mal, parce qu'il n'y a pas ben d'autre chose que de l'alcool dans ce qu'il nomme, à part du jus de lime. Là. Ouais, il y a 1,5 once de liqueur de cinar. Connais-tu ça?
Falloir que Google m'aide là-dessus.
On va aller magasiner ça ensemble. Moi, ça me dit rien. Là. Ouais, on va s'aider. 1 once de gin, 1 once de vermouth sec, 1 once de jus de lime fraîchement pressé. Il paraît que c'est important que ce soit fraîchement pressé. Puis 1/2 once de sirop de sucre et des traits d'orange bitter, tout comme le drink que tu servais à Tom Brady. Tu sais, ça, en plus, je trouvais que ça concordait. Un petit zeste d'orange pour décorer, puis ça va te rendre un peu, ça va égayer ton cœur en voyant le zeste d'orange flotter. Moi, je trouvais ça cute.
Fait que tu me sors, toi.
Je te sors, puis sais-tu quoi? Depuis le début de l'année, on a l'habitude que, tu sais, je te console, que je te tape sur l'épaule, que je te dis, Jean-Nic, ça va bien aller.
C'est vrai.
Fait que je vais m'en servir un avec toi. Ouais. On va le boire ensemble parce que j'aime pas que tu boives seul. Ça m'inquiète toujours plus. Mais là, reprends tes esprits.
On sort-tu à Québec, là? On sort-tu à Québec?
Ah, ben oui.
On va-tu à Giraffe ou au Palladium ou à Relais?
Ouais, ben là, tu viens d'en nommer une coupe qui n'existe plus, ça. C'est dans mon ancien temps. Tant qu'à ça, on pourrait aller chez son père, qui était une place formidable.
c'est vrai.
Mais...
On va aller aux Trois Pierrots. On peut aller à Montréal. On peut aller...
Non, on va rester à Québec. Non, c'est moi qui te sors, là. Okay. C'est moi qui te sors. Okay. Québec, c'est bien, ça.
C'est bon.
Ouais.
C'est bon. C'est
fait que bonne visite au bar, Jean-Nic. Profites-en, puis reviens-nous là, en 2024. Je sais qu'on a un autre show la semaine prochaine qui n'est pas encore en 2024, là, mais reviens-nous là, plus serein et positif et confiant, tes Dolphins. Il faut que le drink te fasse voir les choses plus clairement.
Let's go. OK, merci Steph. Merci à vous d'avoir été là. Je me sens tellement bien entouré. Là. Je vous aime. À la semaine prochaine. Bye.